En ce moment, je vais accueillir notre prédicateur. Il est nouveau parmi nous. C'est sa première fois de pouvoir être avec nous dans ces cultes. Il va se présenter. Nous allons l'accueillir par nos acclamations pendant qu'il est en train de se préparer à venir. Il va se présenter. Il va prier aussi pour le message. Bienvenue.
Bon après-midi à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Étienne Ramazani. Je crois que c'est 90% qui me connaissent. Nous allons prier. Merci Seigneur pour cet après-midi. Tout ce que tu as fait depuis le matin, nous te rendons grâce au notre Dieu parce que tu as encore à nous dire. Nous voulons nous remettre entre tes mains et que tu donnes à chacun, Seigneur, selon le désir de ton cœur et selon le plan que tu as pour chacun de nous. Nous te le prions au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour vous ce dimanche. Alléluia. Tu peux dire à celui qui est à tes côtés que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Voilà, nous sommes dans la semaine de la grande campagne d'évangélisation qui a été dénommée Opération Jean le Baptiste. Et cette semaine qui vient d'être lancée aujourd'hui va nous pousser à lire deux textes. Le premier texte, c'est dans Luc chapitre 3. Nous pourrions lire du deuxième verset au 18e, mais je vais m'arrêter au 6e verset. Les autres versets, on va en parler dans le développement de cet enseignement. Après, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 22, verset 12. Commençons par Luc chapitre 3. Je vais lire du deuxième verset au 6e. La parole de Dieu dit ceci. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans les déserts. Jean s'est mis à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans les déserts. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés et tous les hommes verront le salut de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 12, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Apocalypse 22, 12. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait, parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, à la fin de cette prédication, nous voulons que chacun puisse prendre conscience qu'il est né pour une mission et que cette mission, il doit l'accomplir. Et savoir que le Seigneur revient bientôt pour payer chacun selon ses œuvres. Alléluia. Alors, nous aurons cette partie introductive qui sera suivie de deux autres parties. Préparer le chemin du Seigneur. Pourquoi nous devons préparer le chemin du Seigneur? Aplanir ses sentiers. Ça veut dire quoi? Et puis, on va conclure. Alors, laissez-moi parler des auteurs de ces deux textes. Ici, nous avons deux auteurs. Le premier texte que nous avons lu, c'est dans l'Évangile selon Luc. L'auteur, c'est Luc. Qui est Luc? Pour savoir la première chose, que Luc, d'abord, n'est pas parmi les 12 apôtres. Non, il n'était pas parmi les 12 apôtres, mais Luc fut un médecin. C'était un médecin de carrière, il était non-juif, mais il était aussi collaborateur de Paul. Vous savez, nous avons 4 évangiles, mais parmi les 4 évangiles, tous, les auteurs de ces 4 évangiles, tous n'étaient pas parmi les 12 apôtres. Parmi les 4 évangiles, il y a combien qui furent des apôtres? Qui peut savoir? Matthieu, Marc, Luc et Jean, quels sont les apôtres de Jésus? Pardon? Matthieu et Jean sont les apôtres, mais Marc et Luc n'étaient pas des apôtres. Mais ils ont écrit l'évangile et c'est là juste pour témoigner ce que Christ a fait. Laissez-moi vous dire que Marc était secrétaire de Pierre pendant le premier siècle, quand Christ était en train d'accomplir son œuvre à travers les disciples sous l'action du Saint-Esprit. Marc était à côté de Pierre comme secrétaire et il est venu écrire l'évangile selon Marc. Et ici, Luc, nous disons, lui, il était un médecin et il a écrit en fait un ouvrage qu'on appelle l'évangile selon Luc. C'était vers les années 62-65 après Jésus-Christ. Il a écrit aussi ce qu'on appelle les actes des apôtres. Ça, c'est Luc. Alors, nous avons le second que nous venons de lire dans le deuxième passage. C'est Jean. Qui est Jean? Il ne faut pas confondre Jean avec Jean-Baptiste. Jean, dont il est question ici, il s'agit de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est différent de Jean le Baptiste. Parce que vous allez vous rappeler que Jean-Baptiste était mort juste au début de la mission de Jésus. Alors Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Alors c'est lui qui écrit sur Jean-Baptiste, sur sa mission, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il est frère de Jacques, fils de Zébédée. Si vous lisez les évangiles, vous allez trouver que quand Jésus était en train de chercher les apôtres, les disciples, il a rencontré ces gens qui étaient en train de pêcher. Il a pris les deux ici, Jacques et son frère Jean, qui sont fils de Zébédée. Ces gens ici, c'est celui qui était l'ami proche de Jésus. À un moment donné, vous trouverez, il y a un passage qui disait qu'il pouvait même se reposer sur la poitrine de Jésus. Vous comprenez? Il était intime de Jésus. Alors, ces gens ici, il fut auteur des 5 livres du Nouveau Testament. Parmi les 27 livres du Nouveau Testament, Jean l'apôtre a écrit 5. Et là, quels sont les 5? Il a écrit d'abord l'évangile selon Jean. C'est le premier livre. Il a écrit ensuite 3 épîtres. Premier épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean, et il a écrit aussi l'Apocalypse, parce que c'est la révélation qui a été donnée à Jean. Donc, il a écrit 5 livres dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse qui a été écrit aux environs des années 90-95, vers la fin du premier siècle. Alléluia. Alors, ce passage que nous venons de lire est en train de parler de la mission de Jean. Jean le Baptiste. Jean le Baptiste a reçu sa mission pendant qu'il était au désert. Et le Seigneur lui a confié la mission d'aller préparer le chemin du Seigneur en annonçant la repentance. Et ici, Jean apparaît en train de prêcher la repentance et en train de baptiser. Et donc, le baptême de Jean, c'est ce qu'on appelle le baptême de la repentance. Quelqu'un qui se repentait et qui pouvait confirmer qu'il s'est engagé dans la repentance, il fallait qu'il se fasse baptiser. Amen. Mais alors, comment Jean est né? Jean, il est issu d'un couple de sacrificateurs. Ici, nous avons Zacharie et la femme de Zacharie était stérile. Mais pendant que Zacharie était en train de servir au temple, l'ange lui est apparu et lui a annoncé une bonne nouvelle. Il a dit, ta femme sera enceinte, il va enfanter un fils qu'on appellera Jean. Et cet enfant-là sera rempli du Saint-Esprit de l'Esprit de sa mère. Alléluia. Et alors, Jean était rempli du Saint-Esprit de l'Esprit de sa mère parce que c'était lui le précurseur de Jésus. Et quand il a commencé sa mission, il est venu préparer l'arrivée du Seigneur Jésus. Et donc, et quand Jean est en train de servir, il est en train de prêcher l'évangile, les gens sont venus vers lui. Les gens sont venus vers lui pour écouter ce qu'il dit. Et la Bible dit qu'il les baptisait. Tous ceux qui se convertissaient, il les baptisait. Jean connaissait sa mission bien-aimée dans le Seigneur. Et le fait que Jean connaissait sa mission, ça l'a poussé à travailler avec empressement. La Bible dit qu'il vivait dans le désert et il était comme la voix de quelqu'un qui crie dans le désert en disant « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et dans le désert, il était vêtu à peau d'animaux et il ne pouvait manger que le miel et les sauterelles. Mais il a accepté de vivre dans le désert parce que Dieu avait affaire avec lui. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que tu es en train de vivre dans un désert. Mais si tu es en train de marcher avec le Seigneur est en train de te façonner, le Seigneur est en train de te préparer à de grandes choses. Alléluia. Même si les gens ne te voient pas, si tu sais que tu as une mission pour laquelle tu vis, si tu sais que tu as une mission pour laquelle tu existes dans cette paroisse, fais-le de tout cœur, parce que le Seigneur te voit. Quand bien même tu es dans le désert où personne ne peut pas te reconnaître, où personne ne va pas te dire merci, fais-le comme Jean, parce que Jean a été appelé par Dieu et il a fait selon que Dieu l'a envoyé. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans ce monde pour accompagner les autres. Tel n'est pas le cas. Dieu n'est pas idiot. Il savait que dans ta famille, peut-être, il y a déjà la première personne, la deuxième, la troisième, peut-être tu es le quatrième. Si tu n'étais pas utile, ta mère allait s'arrêter à trois. Mais le fait que tu es venu le quatrième, ça veut dire que tu avais une mission à accomplir. Alléluia. Peut-être que tu es le deuxième. Si tu n'avais pas de mission à accomplir, ta mère allait s'arrêter au tout premier, c'est tout. Mais le fait que tu es venu le deuxième, ça veut dire que tu as une mission à accomplir. Et si tu es le premier de ta famille, ne crois pas que c'est pour rien que tu es venu. Parce qu'il y a des femmes stériles qui n'ont eu et qui n'auront jamais d'enfants dans leur vie. Mais toi, tu es venu parce que Dieu te connaissait. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a dit à Jérémie au chapitre 1er, si vous lisez à partir du 5e verset. Il dit, je te connais. Avant que tu sois dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai établi. Alléluia. C'est pourquoi notre vie, nous devons la mener à suivant la raison pour laquelle le Seigneur nous place dans ce monde. Jean a accompli sa mission. Écoutez-moi bien. Jean n'était pas même parmi les serviteurs populaires ou fameux. Jean a commencé sa mission presque dans l'invisible. Presque dans l'invisible. Mais parce que il était déterminé à servir Dieu, là où Dieu l'appelle. Écoutez le témoignage de Jésus. Allons dans Matthieu, chapitre 11, verset 11. Qu'est-ce que Jésus dit de cet homme? Matthieu 11, verset 11. Voici le témoignage de Jésus sur cet homme qu'on appelle Jean. Il est écrit ceci. Je vais commencer au verset 8. Alors, « Oui, qui donc êtes-vous allé voir? Un homme habillé avec élégance ?» Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. « Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert ?» Un prophète ?» Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous l'ai dit, car c'est celui dont il est écrit, « J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. » Verset 11. « Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. » Alléluia. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Il dit, parmi tous ceux-là qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous me comprenez? Jésus ne veut pas nous appeler à chercher la grandeur, mais il veut nous dire que c'est lui qui connaît notre grandeur. Quand même les hommes ne vont pas nous apprécier, mais Jésus connaît notre grandeur. Alléluia. Jésus connaît ta grandeur. C'est pourquoi, au lieu de chercher à être apprécié, applaudi par les hommes, confie-toi à Dieu parce qu'il connaît ta grandeur. Et il dit, celui qui sera petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean. Alléluia. Celui qui sera petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean. Alors, Jean-Baptiste avait un message. Le message de Jean-Baptiste, c'était préparer le chemin du Seigneur. Pourquoi nous devons préparer le chemin du Seigneur? À cette époque, Jean constate qu'il y a des gens qui mènent une double vie. C'est pourquoi il dit « race de vipères ». Qui vous a appris que c'est de cette façon que vous allez fuir la colère de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais, jamais être parmi les gens qui mènent une double vie. Le message de Jean s'adressait aux gens qui mènent une double vie. Une race de vipères. Vous savez, une vipère. Combien ont déjà vu une vipère ici? Moi, je l'ai déjà vu. La vipère, c'est un reptile qui rampe, donc un serpent. Mais allez voir l'extérieur, il brille, il est bien coloré, n'est-ce pas? À l'extérieur, il brille. Mais à l'intérieur, quand il vous fait sortir du venin, c'est la mort. Alors, Jean dit, race de vipères, il s'adresse aux gens qui ont une double vie. À l'extérieur, il est bien, tout le monde l'apprécie. Mais à l'intérieur, c'est du venin. Alors, faisons attention. L'Église aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, ne soyez pas parmi ces gens à qui Jean pouvait dire, race de vipères. Les gens qui brillent à l'extérieur, les gens qui brillent juste pour le look, mais à l'intérieur, ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Alors Jean dit, ce n'est pas de cette façon que vous allez fuir la colère de Dieu. Produisez des fruits dignes de la repentance. Amen. C'est quand vous connaîtrez votre mission sur cette terre que vous allez commencer à produire des fruits dignes. Mais quelqu'un qui ne connaît pas sa mission, il va vivre dans la confusion, il ne saura pas ce que le Seigneur l'appelle à faire, il sera distrait, toute la semaine distrait, tous les mois distrait, toute l'année distrait. Mais quelqu'un qui connaît la mission pour laquelle le Seigneur l'a appelé, il saura que je suis là pour produire des fruits et des fruits dits. Amen. Si vous lisez Jean chapitre 15 verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous puissiez aller et produire des fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église aujourd'hui, Jésus n'a pas besoin de l'activisme. Jésus a besoin de fruits. Jésus a besoin de fruits. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup d'activités. Ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas ce que vous faites. Ce qui compte pour Jésus, c'est les fruits que vous produisez. Amen. Chaque fois que vous servez le Seigneur, chaque fois que vous faites quelque chose pour le Seigneur, posez-vous la question, quel est le fruit derrière tout ça? Planifiez une activité, posez-vous la question, est-ce que mon objectif s'arrête à l'activité ou bien quel fruit vient après cette activité? Alléluia. Alors Jean nous enseigne à ne pas être parmi les gens qui ont une double vie. Deuxièmement, il y a des gens qui se contentent de l'appartenance à la lignée du patriarche. Les gens sont venus dire à Jean, ils disent, non, nous avons pour père Abraham. Et Jean leur dit, non, ça ne suffit pas. Ce qui compte, ce n'est pas d'appartenir à la lignée d'Abraham ou d'être juif, être israélien, israélite. Ce qui compte, c'est de produire des fruits. Les gens se contentaient d'appartenir à la lignée d'Abraham. Ça, c'est ça la religion. Ça veut dire, Jean s'attaque aux religieux. Les gens qui croient que parce que moi je suis de la CBK, là chez nous c'est bien. Parce que moi je suis de l'église des réveils, là chez nous c'est bien. Parce que moi je suis. Non, Jean a dit non, c'est pas ça. Vous devez produire des fruits et ne pas vous perdre dans l'appartenance à une lignée religieuse. Alors, les gens qui étaient acquisés dans leur conscience, ils venaient à gogo à croyant que pour fuir la colère de Dieu, il faut que nous puissions aller nous baptiser. Et Jean dit non, c'est pas de cette façon. Répentez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, C'est comme si tout le monde n'a plus besoin du message de repentance. C'est comme si tout le monde s'est déjà repenti. Alors, on a besoin de quel message aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens n'ont que besoin de messages de prospérité, des messages où on vous dit, bon, alors ce que le Seigneur attend de vous, c'est juste pour les Quinois, c'est le voyage. Vous le savez, non? Dire aux Quinois qu'il sera à Poto, lui, il a atteint le paradis. C'est le message qu'il attend. À Goma, quel est le message que les gens attendent? Hein? Quoi? L'argent? Quand on vous dit vous aurez de l'argent, vous serez millionnaire. Aïe, 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 aïe. Là, il faut maintenant... Ouais. Alors, Jean veut nous montrer ici que toutes ces choses viendront après. Mais d'abord, la repentance. Rassurons-nous que nous qui sommes ici, chacun s'est déjà repenti. La repentance signifie quoi? La repentance signifie un vrai demi-tour. Vous étiez en train d'aller comme ça et vous dites, non, je me perds, j'ai fait un demi-tour. Je rentre là où se trouve le Seigneur. La repentance, c'est quoi? C'est le changement de mentalité. C'est le changement d'intention. J'avais l'intention de faire le mal. J'étais intéressé par ce qui ne plaît pas au Seigneur. Je change ma mentalité. Je change mes intentions. Je change mes intérêts. J'étais intéressé par ceci. Mais je dis, désormais, mes intérêts sont focalisés sur la mission que le Seigneur m'assigne. C'est ça la repentance. Alléluia. Alors, Jean ajoute au verset 9 que la cognée est placée à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas sera coupé et jeté au feu. Bien-aimé, j'insiste. Jésus revient bientôt. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance et ne pas nous contenter de choses qui ne produisent pas de fruits pour le Seigneur. Nous devons nous focaliser sur la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. C'est à ce moment-là que ces choses que nous cherchons, le Seigneur va les amener comme une provision. Alléluia. Nous devons avoir la vision que le Seigneur nous assigne et c'est alors qu'à toute vision, le Seigneur apportera la provision. Faut pas chercher la provision alors que vous êtes à côté de la vision. La provision accompagne toujours la vision. Alléluia. Deuxièmement, Jean nous appelle à planir les sentiers. Que devons-nous faire? Jean nous montre qu'il y a un Seigneur qui arrive. Il y a un Seigneur qui arrive. Voici ce qu'il a dit. Nous étions dans les livres de Luc. Je reviens là-bas, chapitre 3. Voici ce que Jean dit. Préparer le chemin pour le Seigneur. La première chose, reconnaître qu'il existe un Seigneur. Alors, si vous voulez préparer le chemin, vous devez d'abord savoir si vous le préparez pour qui. Il y a un Seigneur qui arrive, bien-aimé. Et l'Évangile dit, celui-là qu'ils ont crucifié, le moment où il viendra, le moment où tout est élevera, ces gens-là qui l'ont crucifié, ils vont se lamenter. Laissez-moi ouvrir une parenthèse, parce qu'il y a des gens qui font aussi la confusion sur le retour de Jésus. Il y a un verset qui dit dans la Bible, quand le Seigneur viendra. D'abord, dans Actes des Apôtres, l'ange vient de dire aux disciples, pourquoi vous regardez à l'air comme ça? La manière dont il va, c'est comme ça qu'il reviendra. Comprenez ça? Et un autre verset dit, tout est élevera. Mais attention, avant que ce verset ne s'accomplisse, Christ reviendra comme un voleur et seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu écouteront le son de la trompette. Allez dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Je crois que c'est 2 Thessaloniciens. Paul ici explique un mystère qui était caché et que les gens peut-être ne connaissaient pas, ça n'a pas été enseigné assez. Il dit, vous savez que le Seigneur revient, mais attention, avant que tout ait le voix et quand il reviendra, il va venir. Il y a une étape qui n'avait pas été révélée à beaucoup de générations. Il viendra d'abord pour prendre son église et là, tout est ne le verra pas. Alléluia. C'est l'enlèvement. On appelle ça l'enlèvement. Jésus vient pour enlever son église. La Bible dit, il va se tenir dans les airs et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et nous qui serons vivants, nous serons transformés et nous allons les rencontrer dans les airs. C'est pas à ce moment-là que tout est élevé. Il y aura maintenant un moment où il viendra Et là où tout est, il le verra. Et nous serons avec lui. Alléluia. Alors cette parenthèse-là, cette révélation-là, qui n'avait pas été révélée à plusieurs générations, souvent on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de la repentance. On ne parle pas assez de l'enlèvement. Allez dans le livre des Thessaloniciens, vous allez trouver Paul en train de dire, il vient, et quand il vient, il y a une trompette. Ça peut sonner maintenant pendant que nous sommes ici. Seuls, ceux qui se sont repentis, seuls, qui ont l'Esprit de Dieu, seront enlevés. Les autres vont rester. C'est pourquoi vous devez vous poser la question, est-ce que je suis prêt s'il revient maintenant? Les activités vont continuer. Les étudiants vont continuer à aller à l'université. Les gens continueront à aller au marché. Mais ils vont constater qu'il y a une disparition des gens. Si ça arrivait maintenant, et que vous restez dans ce temple ici, comment vous allez vous comporter? Soyez prêts, car vous ne savez pas le jour ni l'heure. Alléluia. Je vous assure, les gens resteront dans des temples. Les gens resteront parce que tout simplement, ils ont écouté, mais ils n'ont pas fait attention au message que nous voulons vous rappeler ici, le message des gens, c'est le message de la repentance. L'enlèvement est là. Alors Jean nous dit, toute vallée sera comblée. Ça veut dire, il veut nous appeler, chacun de nous, à reconnaître quelles sont les vallées qui doivent être comblées dans sa vie. Il y a des gens ici qui ont des vallées dans leur vie. Il est ici, mais il est comme quelqu'un qui est dans une vallée. Il est frustré, toujours frustré. Il est là, il a ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Il croit que bon, ça c'est pour les autres, ça c'est pas pour nous. Nous sommes venus accompagner les autres. Cette vallée-là, ça doit être comblée. Alléluia. Tu dois savoir que quand c'est le Seigneur qui t'appelle, il ne tient pas compte de ton origine. Il ne tient pas compte de ton village de naissance. Il ne tient pas compte de la situation de ta famille. Quand il t'appelle et il te donne une mission. Jean n'était pas venu d'une famille royale, mais il avait une grande mission. Et quand Jésus témoigne Jean, il dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que celui-ci. Amen. Là, nous sommes en train d'appeler à quelqu'un de combler ce vide-là qui te traîne toujours en bas et penser que le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Penser que toi, tu seras toujours derrière les autres. Cette vallée doit être comblée. Amen. Il y a d'autres qui restent toujours dans des insuffisances spirituelles. Ils ne peuvent même pas prier pendant 5 minutes. Cette vallée doit être comblée parce que l'Esprit de Dieu a été donné pour nous fortifier dans notre prière. La Bible dit, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Ça veut dire qu'il est là pour nous donner un souffle nouveau dans notre manière de prier. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, cette vallée-là doit être comblée pour que le Seigneur, quand il vient, il passe sur un chemin qui est droit. Alléluia. Jean enseigne une autre chose. Il nous dit, toute montagne et toute colline seront abaissées. Il veut nous demander de reconnaître quelles sont ces montagnes et ces collines qui doivent être rabaissées dans nos vies. Beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église, ils ont des collines, ils ont des montagnes. On les connaît très bien à l'église, mais à la maison. Kiburi, il n'a fait qu'au coup plafond. On a seulement les témoignages des gens avec qui on vit ici à l'église. Mais à la maison, allez demander papa et maman. Kiburi, chafika kuplafo. Ce sont des montagnes qui doivent être rabaissées. Amen. Dans cette opération Jean le Baptiste, l'appel est lancé à chacun pour que chacun puisse voir quelles sont les montagnes que le Seigneur veut rabaisser dans ma vie. Vous savez, la Bible dit que l'orgueil précède quoi? Mais qu'est-ce qui précède la gloire? L'humilité, l'humilité. Ce ne sont pas des collines qui vont vous amener la gloire, mais c'est l'humilité, l'humilité. Il faut rabaisser ces collines et ces montagnes dans ta vie, que tu sois humble, et alors la gloire sera sur ton chemin. Alléluia. Jean est en train de nous appeler à une autre chose, reconnaître ou alors rendre droit les voies tortueuses. Quelqu'un est ici On connaît qu'il est chrétien de Gomaville, de la jeunesse de Gomaville, mais ses voies sont tortueuses. L'opération André t'appelle à rendre droit tes chemins qui sont tortueuses. La journée, tu sembles... Le soir ou ailleurs, tu es comme ça. J'ai toujours dit qu'il y a des chrétiens complètement psychotassiers des lieux. Ça veut dire, il est chrétien quand il est dans un lieu quelque part. Non, Jean nous appelle à aplanir les sentiers et rendre droit ces chemins-là. Il ne faut pas être chrétien circonstanciel des lieux. Il ne faut même pas être chrétien circonstancié, complément circonstanciel des temps. Chrétien aujourd'hui, mais demain, non. Nous devons rendre droit les voies tortueuses. Nous devons niveler les chemins rocailleux. Et il termine en disant, « Et tous les hommes verront les salis de Dieu. » Alléluia. Tous les hommes verront les salis de Dieu. Tous les hommes sont appelés à expérimenter personnellement les salis de Dieu. N'attendez pas parler du salut. Expérimentez vous-même les saluts. N'attendez pas parler du Saint-Esprit. Expérimentez vous-même le Saint-Esprit. N'attendez pas parler de la prière. Priez vous-même. Alléluia. Il ne faut pas prendre les évangiles comme si c'est écrit pour les autres. C'est écrit pour vous. Expérimentez ça vous-même. Et vous verrez la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, expérimentez. Et ces choses que vous cherchez vont venir. Hier, bon, j'ai ma fille qui est à 8e année. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le tenant suspect. Je suis allé voir ses résultats, les étimages. Le professeur me dit, il a échoué au tenant suspect. Il dit, tiens, depuis qu'il a commencé, il n'a jamais échoué. On dit, non, non. Voici la fiche qui vient de l'inspection. Ça fait une semaine. C'est quoi ça? Bon, son nom n'est pas là. Elle a eu combien de pourcents? 63%. Hein? 63? Jamais. Elle a toujours eu plus de 63% quand même. Mais, il me dit, ta fille a échoué. J'ai dit, Seigneur, quand je rentre, j'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas. Je sais que le ciel n'est pas vide. Et j'ai appelé mon épouse, j'ai dit, le ciel n'est pas vide et mon cœur n'est pas convaincu que ce résultat, c'est un résultat correct. Entrons dans la prière. Nous avons prié, moment de prière, nous avons prié. Alléluia. Hier, je suis rentré à l'Institut Majengo pour aller écouter qu'est-ce que le proviseur va dire. J'arrive, je le salue, je le vois souriant. Il me dit, vos cas sont sauvés. Alléluia. Et il me montre notre résultat. Et ma fille a 68,8%. Je me dis, ça, c'est un miracle. Il y a des choses aussi longtemps que nous allons laisser la foi, la prière aux autres. Nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Amen. Prenez ça pour vous. Expérimentez ces choses pour vous. Et vous verrez la main de l'Éternel. Et je lui ai amené son bulletin pendant qu'on avait déjà déclaré qu'elle refait la classe. Mais maintenant là, elle a 68,8% et elle monte de classe. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel n'est pas vide. Il y a Dieu qui règne dans le ciel. Seulement il attend que tu expérimentes personnellement son salut et tu verras sa gloire. Conclusion. Après la repentance, Jean dit, il vient après moi, celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Nous avons besoin de Jésus pour nous baptiser du Saint-Esprit et il montre que loin de Dieu, vous serez en train de perdre votre temps. Ne gaspillez pas votre jeunesse loin de Dieu. Ne gaspillez pas votre temps loin de Dieu. J'étais en train de dire ce matin à certaines gens, j'ai dit, si jusqu'aujourd'hui vous n'avez jamais lu, pas même un seul évangile, le terminé du chapitre premier jusqu'au dernier, vous êtes en train de perdre votre temps. N'attendez pas que vous finissiez vos études pour lire tous les Nouveaux Testaments. N'attendez pas que vous ayez 50, 60 ans pour terminer à lire la Bible. Il est temps de lire la Bible. Alléluia. Parce que si vous attendez après vos études, vous allez trouver que vous n'aurez pas le temps. Le mariage va venir. Vous attendez après le mariage, ça sera quand? C'est à la mort. Et vous allez mourir avec toute une pile de lettres que Jésus vous a envoyées que vous n'avez jamais lues. Bien-aimés. Ne gaspillons pas notre temps. Jésus-Christ revient pour récompenser chacun selon ses œuvres. Il est temps de recevoir les témoignages de Dieu et de marcher dans sa destinée. Votre destinée est brillante. Je suis en train de déclarer à quelqu'un qui marche encore dans des vallées que votre destinée est brillante. Quelqu'un qui a encore des montagnes, ces montagnes vous empêchent d'avancer. Votre destinée est brillante. Rabaissez ces montagnes, comblez ces vallées, marchez dans votre destinée. Dieu est là pour vous fortifier. Vous n'êtes pas de ceux-là qui sont venus vivre une vie chrétienne médiocre, mais Dieu vous attend pour de grandes choses. Mais même si ça commence petit, comme Jean, Dieu voit ce que vous êtes en train de faire. L'essentiel, c'est la disposition de votre cœur. Alléluia. Levons-nous pour la prière. Je suis disposé à soifer que ton nom descende. Je suis disposé à soifer que ton onction descende. Je suis en train d'éviter le pasteur Joshua. Je suis disposé à soifer. Pendant que tu pries pour toi-même, le pasteur va prier aussi pour toi. Commence à dire quelque chose à Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à produire des fruits, à connaître quelle est ma mission et de m'appliquer à cette mission.
Père Céleste, nous te disons merci parce que cet après-midi, tu nous as encore parlé. Tu as voulu nous rappeler que tu nous attends à l'endroit où tu veux nous donner à chacun sa rétribution, sa récompense par rapport à ce que nous avons vécu avec toi comme expérience ici-bas. Je voudrais recommander chacun d'entre nous à toi, Seigneur, et à ta grâce, pour que cette parole puisse nous interpeller, nous amener à prendre une décision solennelle devant toi, une décision qui nous engage dans les changements de vie. Parce que les modes de vie que nous avons adoptés avant, tu as pensé que ça ne te plaît pas, c'est pourquoi tu as envoyé ta parole, pour que nous puissions comprendre qu'il y a encore des vallées à combler dans notre vie, qu'il y a des collines à rabaisser, qu'il y a des chemins tortueux à aplanir. Seigneur, nous prions que par ton Esprit Saint, tu parles au cœur de chacun d'entre nous pour lui révéler sa vraie nature. Parce que c'est cette nature que tu voudrais bien transformer pour faire de nous des participants à la nature divine. Et c'est cela qui fera que nous puissions être éligibles pour ton royaume. Esprit Saint, parle au cœur de chacun d'entre nous. Et ceux-là qui décident à partir d'aujourd'hui de changer de vie, de recevoir ta force, ta puissance pour marcher à nouveauté de vie en produisant des fruits dignes de la repentance, je le recommande à toi, Seigneur, pour que tu te le prennes en charge, pour que tu t'occupes de chacun et que chacun réalise que vraiment tu lui as tenu la main et qu'il s'en est sorti pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu écoutes, merci parce que tu agiras dans la vie de chacun d'entre nous, dans nos vies, merci parce que tu agiras dans la vie de cette Église. Nous prions tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.